innocents. Et Marthe faisait toujours le parallélisme avec le massacre des innocents. Une extension. Il est sûr que Marie à la croix a offert sa vie pour tous les hommes. Ça c'est sûr. Et spécialement pour les plus petits, les plus fragiles, les plus faibles. De sorte que je crois que nous pouvons. C'est pas une doctrine officielle dans l'Église. Mais je crois que Marthe Robin était quand même très fort sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Je l'ai très bien connu puisque j'ai prêché là-bas, je vous disais ce matin, 18 ans de suite. Je prêchais la retraite des prêtres et la retraite des membres des foyers. Ça faisait 3 fois par an. Et chaque fois, je la voyais 1 heure. On me donnait une part royale que j'acceptais joyeusement, sans la restreindre. Vous savez que sa cause est introduite. Elle est remise à l'évêque de Valence, Monseigneur Marchand. Il y a eu un premier moment de Châteauneuf qui a recueilli tous ceux qui avaient connu particulièrement Marthe. Et on a communiqué tout cela à l'évêque de Valence. Parce que c'est l'évêque de Valence qui doit ouvrir l'interrogation. Je ne crois pas que c'est déjà commencé. Je ne sais pas, c'est possible, mais je ne crois pas. Pouvez-vous nous rappeler brièvement la doctrine du péché originel? Il y a un livre du père Martelet, un bon théologien, qui, hélas, sur ce problème, sur ce mystère de la doctrine du péché originel, dit des choses que je crois qui ne sont pas très acceptables. Parce que il veut réviser la doctrine du péché originel qui est explicite dans le Concile de Trente. Il veut la réviser à la lumière des enseignements actuels de paléontologie. Or, vous voyez bien que on ne peut pas faire cela, puisque la paléontologie nous donne des opinions, et que, de fait, la doctrine du péché originel est une doctrine révélée pour nous. Elle s'appuie sur ce qui est montré dans la Bible et sur toute la tradition de l'Église. Alors, en quelques mots, la doctrine du péché originel, c'est celle-ci. C'est que Adam et Ève ont été créés par Dieu. L'âme d'Adam et d'Ève ont été créées par Dieu directement. Le corps d'Adam et Ève, nous ne savons pas. L'Église n'a jamais rien précisé là-dessus. Mais l'âme est créée par Dieu directement. Et qu'Adam et Ève ont reçu de Dieu une grâce tout à fait particulière, que la science paléontologique ne peut pas saisir, comme chef et responsable de toute l'humanité. Et c'est pour ça que dans l'Écriture, on voit toujours un parallèle entre Adam et le Christ. Ce parallèle existe dans saint Paul. Le Christ est le nouvel Adam, et Marie la nouvelle Ève. Quand l'Église, quand la responsabilité à l'égard de toute la génération humaine, de toute la race humaine. De sorte que sa faute et la faute d'Ève ont une conséquence sur tous leurs descendants. Ce que, grâce à Dieu, n'existe pas pour nos péchés personnels. Les fautes personnelles des parents n'ont pas de répercussions sur les enfants. On peut avoir un grand-père qui est un schnappant et devenir un saint. Ça ne se répercute pas. Et on peut avoir dans ses ancêtres tel saint ou telle sainte, et ça ne se répercute pas non plus sur nous, hélas. D'un côté tant mieux, et de l'autre côté hélas. Parce que nos péchés sont personnels, tandis que dans Adam, il y avait quelque chose de particulier, qu'il avait une grâce capitale sur toute la race humaine. Vous voyez, c'est là où les données de la paléontologie ne colle pas très bien. Parce que si je regarde l'évolution, le premier homme, c'est pas très brillant. Comment peut-il être responsable de toute la race humaine? Et c'est là où il y a un mystère pour nous. Il faut bien se le dire. On n'explique pas le comment. C'est toujours la foi, du reste. La foi, c'est toujours comme ça. Le comment n'est pas expliqué. Le savant essaie d'expliquer dans une lumière de l'évolution le passage de l'animal à l'homme. Ça reste hypothétique. C'est pas plus que ça. La foi parle d'Adam et d'Ève comme des responsables de toute l'humanité. Et on ne dit pas comment leur corps a été formé. Donc là, il y a quelque chose qui reste mystérieux. Le péché d'Adam et Ève a eu une répercussion sur tous leurs descendants. C'est pour ça que nous sommes nés, chacun d'entre nous, avec la faute originelle. L'âme créée directement par Dieu pour chacun d'entre nous. Il ne faut jamais l'oublier. On ressemble plus à Dieu qu'à ses propres parents. Par notre âme, nous ressemblons à nos parents par la formation de notre corps au niveau biologique, par l'atavisme. Mais l'âme est créée directement par Dieu. Et l'âme est créée dans le corps. Et sans doute, dès le premier instant de la conception. Je dis sans doute, au plan théologique, l'Église ne l'a pas précisé. Pour moi, le grand argument, c'est justement le mystère de Marie. Marie est parfaitement de notre race. Elle est notre sœur dans l'humanité. Or, Marie est immaculée dans sa conception. Donc, son âme est présente dans sa conception. L'âme créée par Dieu est présente dès le premier moment de sa conception. Et par le fait même, puisqu'elle est notre sœur dans l'humanité, au plan théologique, je peux dire ce qui est vrai de Marie est vrai de nous. Et donc, il y a des chances que notre âme ait été créée dès le premier instant de la conception. Notre âme spirituelle. Et notre âme spirituelle, notre âme humaine tout simplement, qui est spirituelle. Notre âme humaine, dès qu'elle est unie au corps, dès le premier moment de sa conception, contamine la faute originelle. Je ne peux pas l'expliquer, c'est un mystère. C'est de fait ce que l'Église nous enseigne. Je sais très bien que ce n'est pas commode à accepter pour un scientifique. Mais ça, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas commodes à accepter pour les scientifiques. C'est normal. Le scientifique vole à 5000. La foi, c'est infini. C'est le regard de Dieu. Alors, il faut pas faire de concordisme. Il faut tout simplement accepter que c'est deux lumières différentes. Comme on acceptera que la philosophie et les mathématiques, ce sont deux lumières différentes. Eh bien, il y a une troisième lumière, qui est la foi, et qui est une autre lumière. La foi me met directement en contact avec Dieu. Ce que nous allons voir du reste, puisqu'il s'agit de l'éveil de la foi. Et par la foi, il nous est dit que nous sommes nés dans le péché. Et que si le baptême efface la faute, il reste les conséquences du péché originel. Et les conséquences du péché originel sont ces trois concupiscences qui sont révélés dans Saint Jean, la première épître de Saint Jean, au chapitre 2. Il nous est dit que nous sommes nés avec ces trois concupiscences, que c'est ça le monde. Le monde, c'est les trois concupiscences. La concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et la concupiscence de la vie. Alors, concupiscence de la chair, nous voyons bien ce que c'est. Il y a une propension vers le sensible, vers l'instinct sexuel. La concupiscence des yeux, c'est la grosse vanité. On est toujours porté à se glorifier et à faire comme la grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf. Ça, c'est la grosse vanité. Et l'orgueil, c'est la concupiscence de la vie. C'est de faire que l'intelligence passer avant l'amour. Et on n'accepte pas que l'amour va plus loin que l'intelligence. Dans l'ordre de toutes les réalités qui nous dépassent, c'est-à-dire Dieu et le prochain. L'orgueil, c'est l'exaltation de l'intelligence qui n'accepte pas d'être dépassée par l'amour. Sens de l'amour. Ce serait très intéressant. et le baptême pour leurs enfants. Oui, je maintiens cette doctrine de l'Église. Que faire devant des enfants qui demandent eux-mêmes le baptême sans être soutenus par leurs parents? Situation que l'on rencontre dans des équipes de catéchisme. C'est vrai. C'est même très émouvant, ça. Moi, je dirais, quand je l'ai rencontré plusieurs fois dans ma vie, ça m'a toujours beaucoup ému de voir des gosses qui demandent le baptême. Alors, je crois que lorsque l'enfant est encore dépendant de ses parents, on ne peut pas le baptiser sans le consentement des parents. Il faut donc que les catéchistes fassent eux-mêmes une démarche, si c'est possible, auprès des parents. Et c'est le rôle des catéchistes. Je crois, parce que c'est plus facile, surtout si ces catéchistes sont des mères de famille ou des pères de famille. C'est plus facile pour des laïcs. On a toujours un peu peur du curé, vous savez bien. Dans certains milieux, hein, on voit rouge. Si c'est le curé, n'est-ce pas ? Et plus les milieux sont rouges, plus on voit rouge. Alors, c'est ça va pas. Tandis que les laïcs, et je crois que c'est le rôle des laïcs aujourd'hui, on sent très bien, le prêtre ne peut pas aller partout. Même si il quitte son habit et qu'il prend un moment d'autre, il est bien obligé de dire qui il est. Tandis qu'une mère de famille dira qu'elle est mère de famille, que le petit enfant, elle l'aime beaucoup, qu'elle voit ce désir. Elle peut plus facilement toucher le cœur d'une mère. Et si le cœur de la mère est touché, le cœur du père sera touché après. Parce que je crois qu'on doit répondre à ce désir des enfants. Et si les parents sont consentants, même s'ils ne viennent pas, il suffit qu'il y ait deux parrains. Du moins qu'il y ait un parrain ou une marraine. Donc, il est normal que la catéchiste ou le catéchiste soit parrain ou marraine. C'est suffisant, il faut se rappeler ça. Même si le curé n'est pas très consentant. Je me souviens du cas qui est arrivé. C'était à Fribourg. C'est une Française du Midi. De parents voltairiens qui avaient épousé un Allemand protestant panthéiste. C'était très vague, très vague. Un très brave homme, chimiste de son métier, docteur en chimie, qui travaillait dans une grosse brasserie. Je les connaissais puisque à Fribourg, forcément, il y avait la communauté française. Et donc, j'ai connu cette personne qui se mariait du reste tard. Et lui aussi, c'était un vieux ménage, tout en étant un jeune ménage. On s'était très bien entendu avec la mère intelligente, mais qui n'avait pas été baptisée. Ils avaient eu un enfant, alors que les médecins avaient dit aux entre autres, à Florence, une fresque magnifique représentant les enfants non baptisés dans les limbes. Ça les avait beaucoup frappés. Vous voyez que ça sert toujours, même ces vieilles fresques. Et c'était dit, quand même, si l'enfant non baptisé va dans les limbes, on n'a pas le droit de frustrer notre enfant d'un bonheur éternel. Ça les avait beaucoup frappés, mais ils ne m'en avaient pas parlé. Mais ils m'ont dit, alors, qu'ils auraient voulu que je le baptise, parce que je les connaissais bien. Jouerait-il qu'ils ont demandé à une infirmière de le baptiser. L'infirmière l'a baptisé étant encore vivant. Et il est mort quelques heures après. Je l'ai vu, moi, au milieu de fleurs. Il était d'une beauté extraordinaire. Et je vois encore sa mère à côté de moi quand j'y avais été. Et son père, ils étaient là tous les deux. Ils pleuraient. On a prié ensemble. On a vraiment prié ensemble. Et sitôt après, quand on a quitté le petit cercle, le lieu où il était, dans le salon, sa mère m'a regardé et m'a dit, mon père, si j'ai encore un enfant, je le désire beaucoup, je vous demanderai de le baptiser et d'être son parrain. J'ai senti qu'il fallait pas dire autre chose. À un autre moment, je lui dis, mais vous, est-ce que vous pensez au baptême? Alors elle m'a dit, pas tout de suite. Mais je voudrais que mon enfant, si j'en ai un, soit baptisé. De fait, elle a eu encore deux enfants. Les médecins n'y comprenaient rien, vous savez rien. La nature est plus riche que la médecine. Et ces deux, j'étais le parrain. Et puis il y a une petite fille après. Et cette mère qui ne croyait à rien m'a dit, mon père, vous êtes son parrain, je ferai exactement ce que vous me demandez de faire. D'une loyauté extraordinaire. Quand l'enfant a grandi, je lui ai demandé de réciter la prière du soir. Elle a appris son Notre Père, son Je vous salue Marie, pour le réciter avec l'enfant. Vous comprenez que la grâce poussait, là. Vous priez pour elle, parce que c'est très loyal, ça. Je trouve ça très beau. C'est suffisant, hein, qu'il y a un parrain qui croit et qui promet d'élever l'enfant dans l'Église catholique. Même si les parents ne croient pas. Alors pour un petit gosse qui demande, je dis ça pour un petit gosse qui demande, vous voyez, même si les parents n'acceptent pas de venir, parce que quelquefois c'est pas commode pour eux, on peut leur faire comprendre qu'on peut faire un baptême très simple au milieu des petits camarades, et qu'il y a, et c'est suffisant qu'il y ait une marraine ou un parrain. Si les parents continuent de dire non, c'est pas la peine d'insister. Et quand l'enfant sera suffisamment grand, je crois dès 14 ans, on peut le baptiser. Indépendamment du désir des parents. Je crois qu'il faut 14 ans. Parce que je crois que c'est à partir de 14 ans qu'on considère qu'il est capable de pouvoir prendre cette responsabilité. Le travail souterrain de l'Esprit Saint n'a peut-être pas été fait. J'en suis pas sûr. Comment rattraper le temps perdu? C'est très juste et c'est très beau de poser la question. Je crois que le travail de l'Esprit Saint est éternel. Il est dans le temps, il est éternel. De sorte que si Dieu a permis des circonstances comme cela, je suis sûr que l'Esprit Saint rattrape tout. Vous voyez, enfants sont sûrement des instruments de l'Esprit Saint pour préparer le baptême. Quand le baptême a lieu, les parents donc ont coopéré. Faut pas l'oublier. C'est les parents qui ont demandé le baptême. Et il y a une grâce particulière pour les parents de demander le baptême. Et cette grâce leur est donnée pour qu'ils soient responsables avec les parrains et les marraines de l'éducation chrétienne de l'enfant. Alors, quand c'est les parents, les parrains n'ont qu'un rôle, les parrains et les marraines n'ont qu'un rôle de complémentarité. Quand les parents s'abstiennent, il faut que les parrains et les marraines aient un rôle actif. Parce que c'est eux qui suppléent les parents. Et quand les parents sont là, il est évident que les parrains et les marraines doivent être relatifs aux parents. C'est les parents qui sont les premiers responsables. Mais si les parrains jugent qu'ils ont quelque chose à dire, qu'ils le fassent très discrètement pour ne pas blesser. Parce que c'est très important de comprendre que c'est les parents qui sont les premiers responsables. Alors regardons un tout petit peu ce que doit représenter ce premier réveil de la foi et de l'espérance et de la charité. Alors je vous rappelle, c'est toujours bon, petite théologie de la foi. Qu'est-ce que c'est que le mystère de la foi ? C'est très important pour nous, parce que nous sommes croyants et quelquefois on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Alors c'est important de comprendre ce que c'est que la foi que nous avons reçue au baptême, cette foi qui s'est développée plus ou moins, qui quelquefois a été mise entre parenthèses. Quelqu'un qui a 15 ans par exemple, ou même plus vite, ne pratique plus, mais ne pêche pas contre la foi. La charité peut disparaître, mais l'espérance et la foi peuvent demeurer. Et ça, ça arrive constamment. Des quantités de personnes, en raison de certaines situations, en raison d'un manque de vie divine, ne pratiquent plus. Ils ont été baptisés, mais ne pratiquent plus. Mais n'ont pas péché contre la foi. Il faut pécher contre la foi pour que la foi disparaisse. Donc il faut volontairement, puisque la faute est toujours dans la volonté, n'oubliez jamais ça. Hein. La faute n'est pas dans les images. On peut être tenté par des images, des tentations, ce qu'on appelle des tentations. Des images qui passent dans votre imagination, qui nous tourmentent, des rêves, des cauchemars. Et des rêves et des cauchemars peuvent exister même quand on est conscient. La faute est dans la volonté. Il faut vouloir pécher pour pécher. Et il faut vouloir aller contre la foi pour perdre la foi. Il faut dire qu'on rejette tout, qu'on ne veut plus croire en Dieu, qu'on ne veut plus croire en la très sainte Trinité, qu'on ne veut plus croire dans le Christ. Qu'on ne veut plus croire dans le mystère de l'Eucharistie, la présence de Jésus. Qu'on ne veut plus croire dans les sacrements, tout ce qui nous est demandé de croire. Il faut explicitement s'opposer à tel ou tel article de foi que nous récitons dans le credo. Alors si on rejette un article, on rejette tout. aime d'employer le langage de greffe. Et les pères de l'Église ont beaucoup employé. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit beaucoup l'employer, puisqu'on recommence à parler des greffes. Au point de vue médical. Et c'est très curieux, du reste, c'est très intéressant de voir ce que c'est qu'une greffe. Alors, voyez tout de suite la différence, c'est que normalement, un organe greffé au plan biologique doit être autant que possible en harmonie avec celui qui reçoit cette greffe. Quand il s'agit de la foi, c'est une lumière divine qui nous dépasse infiniment, mais qui n'est pas contraire à notre intelligence. La foi est reçue dans l'intelligence, au plus intime de notre intelligence. Je ne dis pas de notre raison, mais de notre intelligence. La raison, c'est la manière humaine dont nous sommes intelligents. Mais dans notre manière humaine d'être intelligent, l'intelligence demeure. Et la foi est reçue au plus intime de notre intelligence, au-delà de notre raison. Au plus intime de notre intelligence, parce que notre intelligence est ouverte au mystère de Dieu. Notre intelligence a cette capacité de se tourner vers Dieu. Saint Thomas définit l'intelligence une capacité de se tourner vers Dieu. Capax Dei, c'est très beau du reste. L'intelligence a cette capacité de s'orienter vers Dieu. C'est pour ça que l'intelligence est beaucoup plus que les mathématiques, que la science, que la philosophie. C'est quelque chose qui est beaucoup plus radical. On peut très bien n'avoir aucune culture mathématique, aucune culture philosophique, et être très intelligent. Faut pas l'oublier, ça. Et connaître et comprendre des choses que ceux qui, quelquefois, ont beaucoup de culture, ne comprennent plus. C'est une force en nous, naturelle, l'intelligence. Elle provient de notre âme spirituelle. Et la foi, normalement, provient de la grâce dans notre intelligence. C'est notre intelligence qui, du dedans, parce que Dieu agit toujours de l'intérieur, c'est notre intelligence qui, dedans, du dedans, reçoit cette lumière divine qui nous oriente directement vers Dieu et qui nous rend capables de recevoir la révélation. La révélation est faite pour le croyant. Et la révélation reçoit cet enseignement de Dieu qui est la révélation. Révélation qui nous est donnée dans la Bible. Révélation de l'ancienne alliance. Révélation de la nouvelle alliance par le Christ. Révélation qui se continue par l'enseignement de l'Église. Donc nous recevons, nous sommes capables de recevoir cet enseignement divin par la foi. La foi nous donne cette possibilité d'aller plus loin que l'intelligence humaine, puisque grâce à la foi, nous pénétrons dans une lumière nouvelle qui vient directement de Dieu et qui nous donne une capacité de connaître divinement les mystères de Dieu. Mais la foi se réalise dans l'obscurité. C'est une lumière dans les ténèbres. Vous voyez des phares pas très puissants au milieu d'un brouillard très épais. Ça me fait toujours penser à la foi. Et ordinairement, vous avez assez de lumière pour voir le bord où s'il y a une ligne, si la route est bien marquée, la ligne du milieu pour montrer à droite et à gauche. transmet cela. C'est déjà vrai au point de vue humain. Quand vous connaissez très bien quelqu'un et que vous l'aimez, il peut vous dire, crois-moi, je t'affirme que cela est vrai, je l'ai vu, je l'ai constaté, j'ai été témoin. Et parce que vous aimez cette personne, vous croyez vous aussi. Parce que tu le dis, j'y crois, ce serait un autre, ce serait Marius, je n'y croirais pas, parce que je sais qu'il exagère toujours. Mais toi, je sais que ce que tu dis est vrai, j'y crois. Voyez, au point de vue humain, notre intelligence peut progresser par un mode de foi. Nous croyons au témoignage d'un ami. Nous croyons à quelqu'un qui a vu et nous n'avons pas vu. Quand vous rencontrez un cosmonaute et que vous n'avez pas été dans la Lune, ça vous intéresse d'écouter ce qu'il dit. Mais si vous apercevez qu'il en rajoute, à ce moment-là, vous ne croyez plus. Vous dites, oh, je te connais, je sais ce que tu dis. Mais si au contraire, il vous affirme, je vous affirme que ce que je vous dis est vrai, je l'ai vu, je l'ai constaté. Vous croyez en ce qu'il dit. Notre intelligence est capable de progresser par voie de témoignage. Et ça, c'est vrai. Si vous ne croyez jamais quelqu'un qui est un ami et que vous dit cela, on a la tentation de dire espèce d'imbécile, quoi. Ayez un peu confiance. Et ça te permet de progresser et de croire une quantité de choses que ton ami connaît et que toi tu ne connais pas. Humainement, ces constances-là, il faut faire la petite critique du témoignage de l'ami. Mais autrement, on adhère assez facilement à ce qu'un ami nous dit. Dans l'ordre divin, on croit le témoignage des prophètes. On croit le témoignage de Jésus, qui lui a vu Dieu. Et il nous dit ce qu'est Dieu le Père. Il est venu pour nous donner ce témoignage. Et nous recevons ce témoignage dans une foi divine, c'est-à-dire dans une connaissance qui dépasse nos connaissances humaines. Une connaissance à base d'amour. C'est parce que nous aimons Jésus que nous croyons en lui. C'est parce que nous aimons Dieu que nous croyons ce qu'il nous dit et que nous adhérons à ce qu'il nous dit et que notre intelligence adhère pleinement à ce que Dieu nous révèle. Voyez, la foi est toujours une connaissance médiatisée. C'est pas une connaissance directe. C'est toujours une connaissance affective et médiatisée. C'est pas une connaissance scientifique. Quand Dieu nous révèle son mystère, il le révèle en Père. C'est le Père qui parle à ses enfants. C'est le Père qui enseigne ses enfants. Et quand Jésus nous parle, il nous enseigne comme un Père. Comme un frère, comme un époux, puisque l'alliance avec lui, c'est l'alliance de l'époux et de l'épouse. Et donc, son enseignement est avant tout un enseignement dans l'amour. La foi progresse grâce à l'amour. de la Vierge Marie, que nous allons d'abord nous fortifier dans la foi. Ensuite, on pourra regarder en face les objections qui nous sont faites, en sachant très bien que ces objections qui sont faites contre la foi ne tiennent pas la route. Il suffit de les regarder froidement pour comprendre que ou nous avons mal compris, ou ces objections ont dit des choses qui ne sont pas du tout ce que l'Église enseigne. Ça arrive très souvent. Ou que nous-mêmes, nous avons cru que c'était contraire à certaines conclusions scientifiques, alors que ce n'était pas de véritables confusions, de véritables conclusions scientifiques. C'était simplement des propagandes. Je crois que c'est excellent de critiquer les objections contre la foi. Mais il ne faut pas faire ça en premier lieu. En premier lieu, il faut se fortifier dans l'amour, en priant. Seigneur, augmente ma foi. Il faut le demander souvent, parce que Jésus n'hésite pas à te dire « homme de peu de foi ». Ou Jésus dit aux disciples d'Emmaüs, cette parole que j'aime beaucoup, « homme de peu d'intelligence ». Je crois que très souvent, nos doutes de la foi proviennent que nous sommes des hommes de peu d'intelligence. Et Jésus dit bien homme de peu d'intelligence, il ne dit pas homme de peu de logique. Non, non, pas du tout. De peu d'intelligence. Parce qu'on n'a pas pénétré suffisamment. On n'a pas été assez loin. Donc, il faut nous rappeler que le point de départ de la foi, c'est l'amour. La pia affectio. Cet amour à l'égard de celui qui nous parle, le Père, Jésus, l'Église. Et c'est cet amour qui ouvre notre intelligence à la parole de Dieu. C'est cet amour qui nous permet d'être réceptifs à l'enseignement de Dieu. C'est par l'amour que notre intelligence s'ouvre de plus en plus à la parole de Dieu, à l'enseignement du Christ. Parce que s'il n'y a pas cet amour, notre intelligence se raidit. Et notre intelligence, en se raidissant, ne devient plus capable de recevoir un enseignement qui la dépasse. Vous comprenez bien que l'orgueil est l'ennemi numéro un de la foi. Parce que l'orgueil ne veut pas être réceptif de quelque chose qui nous dépasse. L'orgueilleux veut toujours être premier dans le domaine qu'il regarde. L'orgueilleux ne veut jamais suivre quelqu'un. L'orgueilleux veut être autodidacte jusqu'au bout et ne rien recevoir en dehors de ce qu'il a découvert lui-même. C'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, l'orgueil devient une bêtise. Parce que ne jamais rien vouloir recevoir que ce qu'on a découvert, c'est triste. Ça prouve qu'on a un horizon assez limité. Et donc, ça diminue notre intelligence. Notre intelligence, elle est faite pour la vérité. Et on sait très bien que chacun d'entre nous, nous avons un petit domaine d'expérience. Et que le domaine d'expérience va beaucoup plus loin si on interroge les autres. Si on interroge ceux qui sont valablement des témoins. Donc, la foi a comme fondement l'amour. Un premier amour qui ouvre notre intelligence à l'enseignement divin. Vous voyez comme c'est important de comprendre ça pour l'éveil de la foi chez le tout petit. Il faut créer auprès de lui un climat d'amour. C'est la seule manière de pouvoir l'aider à l'éclosion de la foi. Un climat d'amour au point de vue humain. La confiance. Que l'enfant ait une confiance toujours plus grande dans ses parents. Et cette confiance chrétien, c'est le signe de la croix. On doit apprendre très vite à l'enfant le signe de la croix. Et vous voyez, ça commence par des gestes. Parce que les gestes sont plus proches de l'affectivité que la parole. Et il faut qu'il y ait ces gestes réalisés avec le tout petit. Le geste du signe de la croix. Et puis quand l'enfant grandit, qu'il peut se mettre à genoux, même s'il se met très mal à genoux, ça n'a pas d'importance. Les anges sourient. La liturgie familiale, c'est toujours un peu chaotique. Mais c'est merveilleux. Peu importe, ils sont là présents. Et il faut qu'ils soient là présents. Alors, autant que possible, les parents se tiennent bien. Et autant que possible, les parents donnent un signe d'être modèle. Ils les portent. Vous voyez, je crois que c'est de cette manière que la foi s'éveille. Nous ne savons pas à quel moment l'enfant fait son premier acte de foi. Nous ne savons pas. Comme nous ne savons pas à quel moment l'enfant fait son premier acte d'intelligence et son premier acte d'amour spirituel. On ne le sait pas. C'est impossible de le savoir. Vous voyez comme c'est souterrain. Tout ça se développe dans d'une façon très souterraine. Et c'est très beau. Parce que ça permet de porter plus. Ça met l'accent sur la présence aimante. Ça met l'accent sur les gestes. Et il faut que très vite, la prière commune prenne le tout petit dans la prière familiale. Même s'il n'a pas l'air de faire grande attention. Parce qu'il faut se méfier beaucoup, hein, vous savez bien. L'attention des enfants, c'est quelque chose de très particulier. Ils ont l'air de rien écouter, ils écoutent tout. Quand ils grandissent un peu, c'est leur manière d'écouter. Une grande personne, elle vous regarde, elle est là présente, et puis, mais un enfant, il peut bâiller. Ça n'a pas d'importance, il écoute. Une grande personne, c'est plus gênant. Mais un enfant, s'il peut